Il est 22h26 sur BFM TV. Bonsoir, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans BFM Grand Soir. On va parler politique. On a changé de plateau pour l'occasion. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Vous n'allez pas le croire, mais on va enfin avoir un nouveau gouvernement. Oui, ce n'est plus qu'une question d'heure. On avance. Pour en parler, on est avec Laurence Saillez. Bonsoir. Vous êtes ancienne députée européenne LR. Maurice Safran, bonsoir. Vous êtes là. Éditorialiste à Challenge. Olga Givernet, bonsoir.
Bonsoir.
Députée Ensemble pour la République de l'Ain, ancienne ministre. Aurélien Taché, bonsoir. Vous êtes députée LFI de Cergy Pontoise et Hélène Rouet, bonsoir.
Bonsoir, Émilie.
Journaliste politique au JDD. On va donc parler de Sébastien Lecornu, car oui, selon nos informations, le discours de politique générale devrait être prononcé mardi prochain. En toute logique, la composition du nouveau gouvernement devrait être annoncée ce week-end. Je vous fais d'abord écouter Sébastien Lecornu, qui a un peu pris tout le monde de court. Je ne sais pas si vous êtes, si vous étiez réveillé ce matin, mais il a pris la parole sur le perron de Matignon. Voici ce qu'il a dit. Il ne passera pas en force à l'Assemblée nationale.
Il faut que chaque député puisse avoir du pouvoir, puisse avoir de la responsabilité, puisse prendre ses responsabilités. Et au fond, c'est ça qui nous empêche d'avancer, c'est la capacité à ce que le débat démarre. Et donc j'ai décidé de renoncer à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, puisque cet article, au fond, permet au gouvernement d'interrompre les débats, d'engager la responsabilité du gouvernement et au gouvernement d'écrire la copie.
Alors, on va pouvoir en parler avec nos invités sur ce plateau. Bernard Cohen-Haddad, vous nous avez aussi rejoint. Bonsoir. Président de la CPME Paris, président du think tank Étienne Marcel, merci d'être avec nous. Laurence Saillez, qu'est-ce que vous dites? Enfin, évidemment, on va parler de ce 49-3 auquel renonce Sébastien Lecornu, mais ça y est, on pourrait enfin avoir un nouveau gouvernement ces prochaines heures.
Ah, mais je ne sais pas du tout.
Vous n'avez pas l'air d'être réjoui.
Ben, disons que j'ai été assez surprise de cette annonce ce matin du 49-3. Mais en ce qui concerne le gouvernement, je ne sais pas comment sera constitué ce gouvernement, parce que vous savez, le budget, c'est un élément politique fondateur. C'est-à-dire qu'en général, les gens vont dans un gouvernement parce qu'ils sont plutôt OK avec le budget. À partir du moment où on dit que quelque part, on n'a plus aucun cap politique et qu'on laisse totalement l'Assemblée nationale voter le budget, parce que ça veut dire ça, quelque part. Mmh. Ça veut dire que la question est sur quoi s'engager, puisqu'on ne sait plus du tout vers où on va aujourd'hui en termes d'économie, de dépenses et d'impôts.
Comment vous l'avez trouvé, le Premier ministre, Maurice Safran ?
Flou ? Étrange.
Beaucoup de gens disent qu'il a été flou. C'est
étrange,
aussi votre...
Moi. Non, pour compléter ce que dit Laurence Saillez, il faut prendre un peu de recul quand même sur la situation. Les principes même de la Ve République viennent d'être totalement balayés. Il y a un président qui est absent de la scène politique, et un Premier ministre qui nous explique que c'est aux parlementaires de faire la politique maintenant. Donc on est dans une situation quand même extrême. Je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point...
Est-ce que ce n'est pas justement raisonnable ?
C'est soit raisonnable, soit grave. C'est raisonnable et grave, mais c'est grave en tout cas. En tout cas, tous les principes de la Ve République qu'on nous a appris quand on était gamin à la fac et à Sciences Po, tout est balayé ce soir. Il y a un président, je le répète, qui est absent de la scène politique, numéro un, et numéro deux, le Premier ministre renonce au 49-3 et explique aux Français que c'est aux députés maintenant de faire le budget. Ce n'est plus la Ve République.
Mmh. Olga Givernet, écoutez, c'est grave ou c'est raisonnable ?
Et à vous entendre, on est peut-être dans la rupture qu'appelait Sébastien Lecornu de ses voeux quand il a pris la parole ce matin et nous a annoncé qu'il renonçait à ce 49-3. C'est une demande des partis de gauche de pouvoir aller au bout des débats. Donc il a dit chiche finalement à... Allons-y, allons.
Donc c'est quoi, c'est un coup de poker ?
Donc je pense que c'est une nouvelle forme. On a vu déjà deux gouvernements qui sont tombés et on revient sur un exercice budgétaire. Il va pas être simple. Et là, on se dit bon bah il y a une copie. Elle est imparfaite. Elle est trop à droite pour certains. Elle est trop à gauche pour d'autres. Eh bien, saisissez-vous-en. Vous pouvez la modifier. Alors nous, on a déjà fait l'exercice quand même plus d'une fois. Et donc la question, c'est de savoir est-ce qu'il va y avoir des milliers d'amendements qui vont être déposés et Et donc, vu le temps contraint jusqu'au 31 décembre, on n'arrivera jamais à tout examiner. Et donc, il va encore falloir sortir un autre article pour pouvoir passer. Mais je ne crois pas que ce soit son intention.
Ah, l'intention... Vous n'avez pas l'air très confiante déjà. En tout cas, vous le vendez mal, son renoncement.
C'est la confiance dans le Parlement et dans l'Assemblée nationale, surtout. Alors, moi, je me dis que cette semaine, on a quand même réussi à installer nos instances au bureau. Et finalement, de manière plutôt calme par rapport à d'autres fois. Est-ce qu'on va réussir collectivement à faire cet exercice de débat, voire même de préparation d'amendements collectifs pour pouvoir être
sûr quand même mal engagé pour les amendements.
Quels sont les objets Aurélien Taché, la responsabilité est sur vos épaules, donc. C'est de votre faute, si ça casse, c'est ça?
Bon, on s'en doutait.
Mais je ne l'ai pas dit comme ça.
Mais je traduis avec mes mots.
Non, mais il faut se rappeler que l'année dernière, le Parlement a fait un budget. L'année dernière, il y avait d'ailleurs plutôt des gens sur les rangs à gauche et plutôt dans mon groupe parlementaire pour proposer des choses, pour faire voter un budget à l'Assemblée nationale. Il avait été voté. D'ailleurs, on n'aurait pas de problème d'économie si on avait laissé ce budget vivre. Et puis finalement, il a été retoqué ensuite. Donc moi, je ne crois pas vraiment que Monsieur Le Cornu soit sincère quand ils disent que le Parlement va avoir la main. Moi, je crois qu'il est tacticien, habile. Il donne ce sentiment-là. Il renonce au 49-3, mais il y a au moins 3 ou 4 autres articles dans la Constitution pour passer en force, les ordonnances, les décrets, tout ce que vous voulez. Et on a assisté hier, effectivement, au moment où on a renouvelé nos instances, à des combines politiciennes dont j'attends de voir ce qu'elles vont donner. Le Rassemblement National et les candidats de LR, Modem, EPR ont tous voté pour les mêmes candidats. C'est la première fois que ça arrive. D'habitude, chacun propose un bulletin, un candidat pour les commissions, pour les vice-présidences. Là, il y a une espèce d'accord qui a été trouvé.
Donc, on va voir jusqu'où cet accord mène.
Donc, moi, je crois que M. Le Cornu fait semblant de parler à la gauche, fait semblant de parler aux parlementaires. En fait, essaye surtout de parler à Mme Le Pen. On verra si elle lui rend ou pas. Donc, pour l'instant, c'est ça le sujet. Moi, je suis pas un fan de la Ve République. Donc, si le Parlement pouvait avoir la main pour faire un budget, j'en serais heureux. On l'a fait l'année dernière, ça n'a pas fonctionné. Je ne crois pas vraiment qu'Emmanuel Macron et Sébastien Le Cornu aient changé de doctrine parlementaire.
Hélène Rouet, il joue les focus, Sébastien Le Cornu? En gros, c'est ça.
Moi, je ne trouve pas. Au contraire, justement, il tente quelque chose que Michel Barnier n'a pas tenté, que François Bayrou n'a pas tenté. Il se trouve que ni pour Michel Barnier, ni pour François Bayrou, ça a marché. Sébastien Le Cornu est en train de redonner le pouvoir au Parlement. Je pense que c'est effectivement une des solutions qu'il avait à son arc. Et d'ailleurs, il a accédé quand même à une demande majeure du Parti Socialiste. Ça fait des semaines qu'il le demande. Maintenant, le Parti Socialiste n'a pas l'air très, très heureux de cette décision. Je trouve que c'est plutôt habile.
Pour qu'un budget passe, il faut une majorité.
Ah oui.
Ben, je veux dire, je comprends pas ce qu'on est en train, à quoi on joue là. C'est-à-dire que comment voulez-vous faire passer un budget par le Parlement 149-3 quand il n'y a pas de majorité? C'est strictement impossible. Parce qu'un budget, c'est des entrées, des sorties. Ben, monsieur qui nous expliquera parfaitement.
Mais alors justement, je regardais son visage. Vous avez l'air dépité.
Non, je suis pas dépité.
Ou inquiet.
Je suis
en tout cas,
inquiet parce que. Ce dont on a besoin, c'est pas de cours de droit constitutionnel. On l'a fait assez à la fac, ça. Alors c'est pas un sous-amendement 49-1, 40. Nous, ce qu'on veut, c'est quelle politique étonique, avec quelle majorité, dans quelle durée. Or, je suis désolé, Monsieur Safran, vous avez raison, mais la Ve République, on l'a perdue pas il y a une semaine ni aujourd'hui. On l'a perdue au mois de juillet 2024 avec la tripolarisation de la vie politique. C'était jamais arrivé avant. Je suis élève de René Raymond, j'ai fait un tout petit peu de sciences politiques, pas beaucoup, hein. J'en ai fait peut-être pendant 15 ans. Mais dans l'entreprise aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend? C'est quelle politique? De droite, de gauche, du centre? Est-ce qu'on reste sur la politique de l'offre de 2017? Est-ce qu'on reste sur une politique beaucoup plus sociale? Est-ce qu'on reste sur, comment dirais-je, une désmicatisation dans nos entreprises? Est-ce qu'on va libérer un certain nombre de charges? C'est ça qu'on attend ou pas? Est-ce qu'on va pénaliser les dividendes? Ça dépend d'une problématique de la gauche. Est-ce qu'on va taxer l'outil de travail ou pas? C'est ça qu'on attend. Après, cette cuisine médiatique, politicienne, auquel on assiste aujourd'hui, je ne cache pas que vous avez raison. On est un peu dépité. Parce que c'est pas ce qui fait avancer l'économie, c'est pas ce qui réduit la dette et ce qui nous permet pas d'avancer à long terme pour investir. Et ça, par rapport à l'économie européenne et l'économie mondiale, on est vraiment derrière.
Oui, mais justement, je voudrais qu'on avance dans le débat en vous faisant écouter une autre déclaration de Sébastien Le Cornu, puisque on l'a entendu, il dit non au 49-3, il dit toujours non à la taxe Zuckman. Mais attention, si vous avez beaucoup d'argent, ne croyez pas que vous allez passer entre les mailles du filet.
C'est pas uniquement la taxe Zuckman ou rien. C'est évidemment la capacité à se dire pourquoi, comment fonctionne la fiscalité pour les 0,1% de nos compatriotes les plus riches. Et donc, ça pose la question, au fond, de ce qu'on dit la justice fiscale, c'est-à-dire comment l'effort, évidemment, est réparti.
Vous dites peut-être que le Premier ministre est flou. On va apporter quelques détails à ce qu'il a dit. Taxer les plus riches, oui, mais alors comment ? Pour répartir l'effort, le gouvernement propose la création d'une taxe sur le patrimoine financier qui ne touche pas le patrimoine professionnel.
On est passé, on est passé d'un débat où on a dit qu'on était ultra endetté, qu'il fallait baisser la dépense, et on est maintenant à la chasse aux riches. Je sais pas si on voit un petit peu l'évolution du débat.
Ça fait déjà quelques jours.
D'accord. Mais on est passé de ça et ça on a remarqué. Enfin, pas vraiment encore. On est passé de ça. Maintenant, c'est la chasse aux riches. On parle plus de diminution des dépenses. C'est la chasse aux riches. Alors, imaginez ce qui va se passer à l'Assemblée là dans les débats. Parce que comme chacun va vouloir, et notamment le PS qui a besoin de donner des gages à son électorat pour les municipales, ça va être la course aux taxes, aux charges, et notamment sur les entreprises. Ça va être un fiasco pour les entreprises, cette affaire, parce que chacun va vouloir taper sur taxes sur les entreprises qui ont déjà augmenté au dernier budget.
Mais de manière ponctuelle et d'abord
peut-être pour donner
non, ça va déjà être reconduit, donc c'est ponctuel au moins pour plus d'un an.
On n'a pas encore voté le budget, donc
ça m'étonnerait qu'on vienne en arrière
mais
sur les taxes ponctuelles.
Pour expliquer la question en fait de la taxe sur la finance plutôt que sur l'aspect professionnel et
oui c'est ça, un peu de pédagogie. Quand même.
Un peu de pédagogie, c'est de se dire en fait aller taxer ces dividendes qui viennent se sécuriser dans les holdings.
Donc on parle des fameuses holdings.
Voilà qui échappent.
On peut mettre un petit peu de tout en fait du professionnel et du personnel.
Exactement. Donc on épargne tout ce qui est revenu, on épargne aussi les impôts sur les entreprises.
Et
on va aller chercher une rente et on a un dispositif aujourd'hui qui permet de remonter dans les holdings qui ont en charge plusieurs entreprises des dividendes qui ne sont pas taxés.
Mais tout ça c'est légal. On rappelle que tout ça c'est légal.
Non mais évidemment, mais ça on peut changer.
Les dividendes ont déjà été taxés quand même, madame, rassurez-nous. Vous savez ça.
Non mais
d'accord. On a l'impression que c'est de l'argent au noir. Qui est caché dans les holdings.
En même temps, on parle, Aurélien Taché, puisque vous vouliez parler. Et après, Maurice Safran, on parle d'optimisation fiscale, en fait. On se demande si on pourrait.
Il n'y a, à mon avis, ce qui est attendu par Sébastien Lecornu sur cet impôt est absolument dérisoire. La taxe Zucman qu'on proposait, nous, sur 2% du patrimoine, on l'assume, effectivement. Monsieur disait, au moins, voilà, il faut proposer des choses. On est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est la démocratie, tout ça est parfait. C'était 20 milliards d'euros. Là, ça va être 1 ou 2 milliards d'euros. Maximum, grand maximum.
Oui, 2 milliards d'euros, c'est le maximum qui est indiqué.
Ce qu'on voit arriver dans la copie, c'est pas ça. Ce qu'on voit arriver dans la copie, c'est des économies sur les franchises médicales qui vont augmenter, sur les prestations sociales qui vont être gelées, sur en fait, comme d'habitude, faire les poches aux Français. Donc les entreprises, moi je ne veux pas spécialement taxer les entreprises. Par contre, sur les gros patrimoines, les grosses entreprises, là, on peut se dire qu'effectivement, pour baisser la dette, pour trouver des moyens, il pourrait y avoir des solutions. Rassurez-vous, monsieur Lecornu n'a absolument aucune intention de faire ça. Donc les économies seront faites ailleurs, sont faites comme d'habitude, sur les consommateurs, sur les citoyens, sur ceux qui n'ont pas grand-chose pour vivre, et on le verra dans le débat, et c'est pour ça que moi j'appelle mes collègues socialistes ce soir à être raisonnables. Une motion de censure sera déposée la semaine prochaine, censurons, passons à autre chose, ça ne sert à rien de perdre un ou deux mois de débat parlementaire pour ça.
Pour vous, ça ne sert même plus à rien de...
La vie politique avance, mais on ne peut pas rester avec ce genre de fable.
Il y a un problème qui se pose pour la droite quand même. C'est que l'ensemble des sondages publiés depuis trois semaines montrent que les électeurs de droite sont favorables à la taxe Zucman. Les électeurs de droite sont favorables à la taxe Zucman. Moi, personnellement, je suis contre la taxe Zucman. Donc, c'est pas un problème personnel. L'immense majorité, et ça bloque la droite, effectivement.
Parce qu'on a fait un bourrage de crâne médiatique.
En tout cas, selon les derniers sondages, c'est 86% des Français qui seraient favorables
L'autre point, c'est que le Parti Socialiste ne peut pas se contenter de la suppression du 49-3 pendant quelques semaines. Le Parti Socialiste a absolument besoin, vis-à-vis de ses compagnons des LFI ou de ses ex-compagnons des LFI, avec des élections municipales très difficiles et très importantes qui approchent, le Parti Socialiste a besoin d'un vrai marqueur à gauche. Et pour le moment, le Premier ministre ne l'a pas donné.
Ouais.
Donc ce n'est pas satisfaisant pour la droite, c'est pas satisfaisant pour la gauche.
Ça ne contente personne. Hélène Rouet.
Oui, je voulais juste rebondir sur quelque chose que vous avez dit, Monsieur Taché. Vous dites que la taxe Zucman peut rapporter 20 milliards. Il y a aussi certains économistes comme Philippe Aghion, comme Xavier Jaravel, qui n'ont absolument pas ces chiffres-là, qui parlent parle de 5 milliards. Et là, on se rapproche beaucoup plus dangereusement de ce que Sébastien Lecornu est en train de faire.
Sébastien Lecornu, c'est plutôt 2 milliards d'euros. Mais en effet, quand on regarde sur l'échelle basse, c'est plutôt 5 milliards.
Pour la taxe Zucman. Plus que d'autres, mais... Ouais.
Bernard Cohen-Haddad,
débat d'économiste. Voilà.
Pour nous, les entrepreneurs, les investisseurs, c'est pas de savoir si c'est la taxe ceci ou la taxe cela, c'est quelle stabilité fiscale, et donc lié aussi à l'IR, c'est-à-dire à l'impôt sur le revenu, mais aussi à l'IS, l'impôt sur les sociétés, on va avoir. Donc on a bien compris qu'il fallait trouver une majorité, parce que c'est ça la réalité. Hein. Donc Florence l'a dit très clairement, un budget c'est des recettes et des dépenses. Donc si on augmente les dépenses sans augmenter les recettes, c'est ce qu'on vit depuis 20 ans, 25 ans, ben on a forcément un déficit. Aujourd'hui, c'est comment on récupère durablement une capacité de l'investissement pour créer de la richesse, qui est la richesse à travers une dynamique économique. Et comment aller cette dynamique économique? Mettre le paquet non pas sur les dépenses en subventionnant les ménages, mais en subventionnant la création de l'outil de production. Ça, j'espère que même avec M. Taché, on sera d'accord. C'est comment on crée des entreprises et de l'industrie made in France dans les territoires. C'est le premier point. Deuxième point, c'est comment on crée également de l'investissement via une mise en place du soutien à la recherche et développement. Pendant des années, on l'a fait de manière meso voce parce qu'il y a eu un certain nombre de crises à répétition. Troisième point, et ça c'est extrêmement important, comment, et je le dis, et c'est un petit patron qui vous le dit, comment on désmicardise nos emplois dans nos entreprises pour permettre effectivement que cet argent qui est gagné n'aille plus sur le livret A. On est les champions du livret A. 19% d'épargne aujourd'hui dans un ménage. C'est-à-dire que sur 100 euros, vous épargnez 19%. Qui ne va pas dans le circuit de l'économie, c'est-à-dire qui reste dans le bas de laine. Comment on fait pour réorienter ces 19% de l'épargne, dont 9% d'épargne financière? C'est pour ça que M. Lecornu parle d'investissement financier, c'est-à-dire sur des valeurs mobilières ou autres.
Comment est-ce qu'on peut pas dire que c'est pas un peu plus risqué, disons que...
Non, c'est pas risqué. Aujourd'hui, c'est comment on réinjecte de l'argent qui est gardé dans le bas de laine, c'est-à-dire qui n'est pas productif de manière directe sur notre économie, mais qui travaille à travers les banques et les assurances sur l'économie, et sur l'économie réelle. Et que, non pas, ces 19 ou 20 euros du mois, ou 190 euros, vous multipliez, on le garde pour soi au lieu de le réinjecter dans l'économie. C'est ça, aujourd'hui, qui est important. Si on le rejette dans l'économie, dans des produits qui sont créés en France, ou des entreprises, ou des services qui sont offerts en France, au lieu d'acheter des trucs qui viennent de Chine, du Brésil, ou d'Inde, ça va créer une dynamique économique et donc on va créer de la richesse. Et c'est comme ça qu'on va reprendre la boule de neige.
Mais est-ce que ça, c'est facile à mettre en place sur le court terme?
Non, justement non, puisque la crise de la Covid, plus après la crise ukrainienne, donc la crise des matières premières, etc., a fait qu'on a eu un enchaînement, plus après les Trump tarifs, etc., a fait qu'on a un enchaînement de catastrophes économiques qui n'étaient pas liées à l'économie elle-même, mais qui étaient, à un certain nombre de décisions politiques. Et ça, aujourd'hui, c'est extrêmement difficile.
Bien sûr, mais comment on fait quand on a besoin d'argent maintenant?
Vous savez comment on fait? On réduit la dette. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Et on libère l'économie, parce que quand vous taxez les entrepreneurs, quels qu'ils soient, ils n'investissent plus.
Alors, on avait l'impression que l'économie était plutôt libérée ces dernières années.
Il y a plusieurs mesures qui vont permettre de libérer de l'argent. Et Sébastien Lecornu l'a dit, d'abord en s'attaquant à l'État, c'est le plus gros, il faut qu'il puisse réduire son train de vie. Il l'a dit, réduction des budgets de communication, le train de vie également des anciens premiers ministres. Voilà, ça peut paraître un peu symbolique.
Est-ce que c'est pas du bout de ficelle?
Ça peut paraître un peu symbolique, mais je pense que vis-à-vis du message que l'on envoie, quand on veut...
Les agences de notation, vous savez, les symboles, ça suffira pas.
Non, mais les Français, si on leur dit on va faire des efforts, ça pose problème. Donc Sébastien Lecornu a dit, d'accord, on peut envisager une hausse de fiscalité, notamment sur les plus hauts revenus, mais il faut aussi avoir des compensations sur les plus bas revenus. Et le fait, si on veut désmicardiser, c'est de rapprocher le salaire net du salaire brut. Il a fait des propositions, notamment la baisse de la CSG sur les SMIC jusqu'à 1,4 SMIC. Et puis, il y a également la défiscalisation des heures supplémentaires qu'il a proposé aussi, le retour de la prime du partage de la valeur. C'est des choses qui sont sur la table et ça sera à nous, dans le budget, de les acter. C'est des propositions qu'il avance.
Si vous voulez, évidemment,
faut pouvoir les voter.
Mais le système...
On a l'impression que personne, finalement, n'est content. Ça ne contente personne. Est-ce que ça ne veut pas justement dire qu'il a bien fait son job, Sébastien Lecornu? Il fait des cadeaux à tout le monde et il mécontente tout le monde.
Mais non, mais le problème, c'est qu'il faut voter le budget. Et aujourd'hui, on peut mettre en doute très fortement le fait que qui que ce soit à Matignon peut faire voter le budget dans le contexte actuel. Les Français, ils en sont pas à écouter notre conversation ce soir. Les Français, ils constatent qu'il n'y a pas de gouvernement, qu'il n'y a pas de majorité, que le Parlement ne fonctionne pas. C'est la première fois depuis 1958. Pour toutes les générations de Français, c'est un vrai choc. Le système ne fonctionne plus. C'est la première fois. C'est très inquiétant.
Alors, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
Ah bah maintenant, il y a des gens qui sont...
À partir du moment où on n'a plus de projet politique, ce qui est le cas, le budget, c'est un projet politique, qu'on soit d'accord ou pas. Voyez, Monsieur Taché et moi, par exemple, on est totalement opposés, mais au moins, on a des propositions et une vision. Si vous arrivez en disant qu'il n'y a plus de projet politique parce qu'il n'y a plus de budget, le vote du budget, c'est un symbole politique. On parlait de symbole, mais celui-là, il est fort parce que vous vous positionnez dans l'opposition ou dans la majorité selon que vous votiez ou pas le budget.
Oui, sur les règles de l'ancien.
Oui, mais arrêtez de faire toujours nouveau monde parce que non, vous voyez, on se fait amener là. À chaque 6 mois, vous nous dites que c'est un nouveau monde et nos nouvelles.
Mais parce
moi aussi,
que,
j'y ai cru à vos méthodes, mais là, je vous avoue que...
une transition politique importante. Et d'autres pays ont réussi à faire fonctionner un parlement tripartite.
Vous pouvez pas comparer parce que c'est pas du tout le même type d'élection. Ce sont sur des pays que vous comparez qui sont à la proportionnelle. Donc, déjà, il n'y a aucune comparaison avec votre. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où on lâche l'affaire sur le budget, ce qui est le cas, c'est très inquiétant. Et là, je me mets du côté de monsieur. Depuis le mois d'août, les chefs d'entreprise ne savent pas du tout ce qui va leur arriver, en plus des ménages. Donc, vous imaginez aller faire tourner votre boîte sans savoir si vous pouvez investir en crochet. Parce qu'on entend tout et son contraire. Et ce qui va se passer à l'Assemblée nationale, tout est possible. Le RN peut s'allier avec la gauche pour réussir à faire tomber la réforme des retraites. Voilà. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle pour l'économie? De mon point de vue, je ne le crois pas. Donc, tout est possible dans tous les sens. Et d'un autre côté, comment vous allez faire voter un budget si à partir du moment où vous allez faire des concessions à la droite, imaginons, en disant... Effectivement, on revoit la ME, on revoit l'immigration. Et en même temps, vous allez faire une concession à la gauche en disant on augmente les impôts parce que l'histoire des plus riches, en fait, ça ruisselle bien par contre. Ça redescend toujours sur les classes moyennes. Comment vous voulez qu'à la fin, on arrive à une copie qui puisse être votée? D'où l'intérêt du 49-3.
Oui. Quand Bernard Cohen-Haddad, comment est-ce que ça résonne, ça, chez les sociétés, cette proposition d'une taxe sur le patrimoine financier?
On est un certain nombre à penser qu'il faut une plus grande équité fiscale et c'est une attente des Français, c'est une attente aussi de nos entrepreneurs parce que nos petits entrepreneurs, commerçants, artisans, indépendants, vous pouvez être indépendant, travailleur non salarié, vous n'avez pas d'airbag, hein. Je veux dire, vous n'avez pas de retraite chapeau, de parachute doré, donc ça on l'entend nous. Et d'un autre côté, on est aujourd'hui dans une telle concurrence internationale où on ne veut pas que les décisions qu'ils ont prises affaiblissent la politique économique de la France, comme on l'a pu le voir cet été, avec cette crispation sur les 44 milliards qui n'étaient pas nécessaires forcément et qui plombaient l'activité économique alors qu'on avait un véritable besoin de stabilité. Donc nous, ce qu'on attend, c'est bien entendu que certains effets d'aubaine en matière de politique fiscale qui ne touchent pas l'ensemble de nos entreprises soient effacés. Par exemple, dans le pacte Dutreil, qui est l'outil professionnel de transmission par excellence, qui est un super truc dont on nous a parlé à un moment du risque de le voir effacé. Bien entendu, quand vous avez par exemple un bateau qui est lié à l'outil professionnel, qui est pas à l'entreprise, ou quand vous avez des appartements qui sont sur le pacte Dutreil en transmission, faut peut-être se dire à un moment que c'est pas comme ça qu'avait été pensée la loi à l'origine. Donc ça, il faut le revoir. En revanche, essayez aussi de rapatrier chez nous un certain nombre d'investissements à l'étranger des grands groupes qui sont à 85% délocalisés en matière de production, je l'évoquais tout à l'heure, et puis aussi faire en sorte, je le redis, ça a été dit par Madame la députée, d'alléger les charges qui sont sur le travail en matière d'heures supplémentaires, de primes de partage de la valeur, de la déplafonner et aussi de la libérer. Plus on libérera l'entreprise, ça veut dire qu'on fait n'importe quoi, c'est pas le Far West, plus on permettra de créer de la richesse de proximité. Aujourd'hui, j'en terminerai là pour pas être trop long, parce que je sais que le temps est contraint.
Oui, j'ai failli vous couper.
Mais oui, mais je l'ai vu dans vos yeux.
C'est important ce que dit monsieur.
Mais voilà.
Parce que ça montre que les milieux patronaux peuvent accepter de l'équité fiscale. Ce que vous dites, c'est important, monsieur, parce qu'on voit bien que le MEDEF a voulu aller un peu trop loin. La CPME, les entrepreneurs raisonnables.
Merci.
Je vous qualifierai comme ça, monsieur. Voilà. Et c'est vraiment un compliment dans ma bouche. Demande de l'équité fiscale. Et est-ce que vraiment ce gouvernement va être capable de faire ça? Moi, je suis très heureux d'entendre ça, parce que voilà, on entend un petit peu un discours qui change un peu de ce qu'on a entendu ces dernières années.
C'est vrai qu'on Maurice rappelle Safran que le MEDEF...
86% des Français pour la taxe Zucman. Il faut peut-être aller dans ce sens.
On rappelle que le MEDEF a tapé du poing sur la table en disant qu'ils allaient se mobiliser si jamais...
Oui.
Mais juste moi, pour terminer, si vous le voulez pas...
C'est intéressant d'entendre autre chose.
Juste voilà, pour terminer, 67 000 défaillances entreprises sur les 12 derniers mois. C'est pas rien du tout. Sur les entreprises de la catégorie des plus de 50 salariés, avant, c'était les moins de 10. Donc, vous voyez qu'on est dans une situation, y compris sur les PME, de catastrophe économique et sociale sur les entreprises de proximité. Et bien entendu, on a intérêt, nous, à avoir une politique d'apaisement et non pas de surcharge de l'activité économique. Parce que si on taxe immédiatement, et ça, je... sera un certain nombre d'avantages qui sont liés à l'outil de travail, on ne pourra pas y arriver.
Merci beaucoup Bernard Cohen-Haddad d'avoir été avec nous. J'invite maintenant Flore de Saint-Maurice à nous rejoindre sur ce plateau. Vous êtes notaire et porte-parole de la Chambre des notaires à Paris. Merci beaucoup d'être avec nous. Il va être question d'héritage, parce que c'est une autre piste évoquée qui concerne donc la fiscalité successorale. Sébastien Lecornu, regardez, réfléchirait à une mesure encourageant les transmissions de patrimoine aux petits-enfants et aux jeunes. L'objectif, ce serait donc de favoriser le financement des projets de vie des nouvelles générations. C'est bien ça? Pourquoi? Parce que c'est compliqué aujourd'hui d'obtenir son héritage. Ça coûte cher aux Français?
Alors, la plupart des héritages en France ne sont pas taxés en ligne directe entre parents et enfants. Et pour les successions qui pourraient être taxées, il y a des possibilités d'aménagement, d'anticipation et déjà des outils de transmission intergénérationnelle pour faire des sauts de génération et permettre aux plus jeunes d'acquérir. Mais il y a sans doute mieux à faire.
Mais alors pourquoi Sébastien Lecornu et ses proches mettent ça sur la table aujourd'hui ?
C'est une incitation. Moi, j'ai fait un rapport sur la grand-parentalité. Et en fait, on se rend compte, effectivement, on l'a vu, c'est ce qu'appelait François Bayrou les boomers, hein, qui avaient un pouvoir d'achat qui était bien supérieur et qui, avec la durée de vie, eh bien, transmettaient que très tardivement à leurs enfants qui n'en avaient plus forcément besoin alors que leurs petits-enfants eux-mêmes se lancent dans la vie. Donc l'objectif, c'est d'être un peu plus incitatif pour sauter une génération et subvenir justement aux besoins, même de son vivant, hein, parce qu'il y a des donations partage, je crois que ça s'appelle, j'y connais pas grand-chose, mais qui permettent de donner directement à ses héritiers et même à ses petits-enfants. Donc l'objectif, c'est d'être incitatif, parce qu'on voit beaucoup de jeunes, on le dit, quand ils sont étudiants, qui galèrent. C'est compliqué pour eux. Après, pour rentrer dans la vie, on doit s'installer, la maison, les enfants arrivent. Et c'est vraiment des charges aujourd'hui. Lorsqu'on est en début de carrière et qu'on a un salaire trop petit, on ne peut même plus acquérir son logement. On n'arrive même plus à trouver de caution pour pouvoir louer un logement.
Qui précisément aux classes moyennes ou aux familles qui ont déjà beaucoup d'argent et qui vont hériter de beaucoup d'argent?
Et bien, toute cette classe qui a travaillé longuement, qui a aujourd'hui une retraite qui leur permet de vivre de manière suffisante, qui ont souvent déjà payé leur logement, mais qui, on le voit bien, sur les générations suivantes, n'arrivent pas forcément à mieux gagner sa vie. C'est la crainte de l'avenir aujourd'hui quand on est parent, de savoir si son enfant va mieux réussir, va mieux gagner sa vie. Et c'est pas le cas. On le voit, on régresse. Donc, c'est de pouvoir transmettre un peu mieux et d'assurer ce niveau de vie plus tôt dans la vie pour les jeunes.
C'est une révolution pour vous, Laurent Saillet ?
Déjà, il faut faire la différence entre l'héritage et la donation de son vivant.
Oui.
Donc, pour la donation de son vivant, moi, je suis tout à fait pour faciliter les choses. On a des milliards en épargne qui sont difficiles à transmettre. Et on peut même imaginer des fléchages intéressants, hein, des donations facilitées, par exemple, pour l'achat d'un bien immobilier. Donc moi, je pense que si on veut faire ruisseler, puisque c'est un mot qu'on aime bien et qu'on aimerait bien qu'il fonctionne un jour, c'est de permettre justement aux parents de donner, aux grands-parents de donner de leur vivant et de partager, si vous voulez, cette économie. Mais pour autant, il faut un petit peu de certitude. Donc toute cette incertitude fiscale aussi, elle n'engage pas à dégorger les livrets. Et ensuite, sur l'héritage, j'ai entendu Rémi Goubert du Parti Socialiste, qui était sur votre plateau, enfin pas le vôtre, mais sur BFM tout à l'heure, qui carrément, donc c'est pour ça que je suis un petit peu tendue ce soir, parce qu'on entend des choses incroyables, qui disait qu'il faut carrément abolir l'héritage. D'accord.
Ça a déjà été tenté.
Pour permettre justement l'ascenseur social. Deux sujets qui sont complètement différents. L'ascenseur social, c'est donner de l'argent pour l'école, enfin aider les jeunes à se propulser. C'est pas en abolissant l'héritage. Donc vous voyez où on en est quand même. Hein. On en est entre Zucman, l'abolition de l'héritage. On est dans un délire sémantique de gauche qui quand même commence à être assez anxiogène. Donc ouvrir les portes, je le redis, avec un 49-3 à l'Assemblée, enfin, en renonçant à 49-3 à l'Assemblée nationale, à des propositions qui vont partir dans tous les sens, je peux vous dire que ça va pas donner de la sérénité.
Lors de Saint-Maurice,
aujourd'hui, oui, pour on peut donner à ses enfants 100 000 euros par parent et par enfant en pleine propriété. Et donc si les parents ont ce souhait de transmettre immédiatement à leurs enfants de leur vivant pour les aider à s'installer, c'est déjà possible. C'est déjà possible, encore faut-il le pouvoir. Et pour ceux qui le peuvent, les systèmes les plus incitatifs sont ceux qui consistent à transmettre de la nue propriété. Et donc finalement de rester en possession de son patrimoine en optimisant une fiscalité pour dans 30 ans, au moment de son décès, quand on aura 95 ans et que les enfants auront 65 ans. Donc il y a effectivement peut-être quelque chose à dynamiser pour que la transmission puisse se faire plus rapidement. Mmh. Et il faut aussi s'intéresser aux nouvelles formes de famille.
Maurice Safran, vous vouliez réagir notamment sur la proposition qui a rendu folle Laurent Saillé, oui, du PS, notamment supprimer l'héritage. Est-ce
énervé,
que c'est pas une bonne idée?
Ça a énervé beaucoup Laurent Saillé, mais c'est un débat qui existe en France depuis très longtemps. Oui, hein. Le débat sur l'héritage et sur les héritiers, notamment, ce qui est pas tout à fait la même chose. Le débat sur l'héritage, le débat sur l'héritier, c'est un débat qui anime la société française depuis très longtemps. La société française est une société d'héritiers. Est-ce que ça fonctionne si bien que ça? Ça mérite qu'on s'interroge. Donc le passage de la taxe Zucman...
Mouillez-vous, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée de mettre le sujet sur la table?
Oui, c'est une très bonne idée, mais c'est un sujet qui est sur la table depuis fort longtemps d'ailleurs.
Mais c'est très bien comme ça, on n'a plus besoin de travailler en se disant qu'on va mettre quelque chose de côté pour nos enfants et pour leur transmettre, puisque de toute façon on va abolir l'héritage. Mmh. Et vous voyez un petit peu comment on déconstruit tout. Qui ne travaille pas en se disant « Tiens, je vais mettre un peu d'argent de côté pour mes enfants. » Vous voyez, c'est détruit. Et ça n'aidera pas du tout. Il faut aider les jeunes à s'élever. L'égalité des chances, c'est à l'école. Sarkozy parlait des orphelins de 17 heures. C'est-à-dire que l'égalité des chances, elle est là entre les gamins qui ont des parents pour les aider ou des profs pour les aider et des gamins qui rentrent tout seuls chez eux. C'est ça l'ascenseur social. C'est pas en brimant les gens et en leur enlevant leur héritage.
Mais
c'est un monde à l'envers.
Pour le financer. Ce que vous dites est juste sur l'école et effectivement la société d'héritiers, à mon avis, ça ne se gomme pas comme ça avec simplement tout d'un coup une abolition de l'héritage ou je ne sais quoi. J'ai pas entendu le collègue, je sais pas ce qu'il a dit exactement, mais en tout cas, il faut bien financer le service public de l'éducation et tout le reste. Après 17 heures, effectivement, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents qui sont là. Comment on aide là-dessus sur le périscolaire et autres? Tout ça, c'est des moyens. Alors moi, je veux bien entendre qu'il faut tout diminuer, tout économiser sur la dépense publique. Mais vous êtes en train de dire vous-même, cher Laurent Saillé, que l'école, par exemple, il faudrait peut-être mettre
pour
le paquet.
Rediriger la dépense publique,
peut-être
pour
mettre
réorganiser
le
l'État.
Donc, je pense que certaines successions, c'est madame qui serait mieux que nous, mais peut-être pourraient être un tout petit peu plus prélevées quand elles sont à un très haut niveau. Peut-être des grosses entreprises aussi, qui sont souvent, comme ça, d'ailleurs, cédées à des héritiers qui en font souvent quelque chose de moins bien que ceux qui les ont construites.
J'ai pas envie d'être désagréable avec les uns ou les autres, mais je pense
vraiment que c'est un débat légitime. Après, de là à supprimer l'héritage, non, je pense qu'effectivement, quand on travaille, on veut laisser quelque chose à ses enfants.
Moi, ce que je veux simplement ajouter, c'est que si on détaxe ou on enlève des taxes, c'est des recettes en moins pour l'État. Donc, ça veut dire que l'État se prive de recettes.
On a quand même un déficit
aussi à combler. Donc, si on se prive de ces taxes, c'est évidemment pour qu'elles puissent venir en soutien d'une politique incitative. Donc là, en l'occurrence, c'est pour rediriger une incitation à pouvoir transmettre et à donner à ces jeunes la possibilité d'avoir un petit patrimoine dès le début de leur carrière, plutôt que d'attendre longtemps.
On ne parle plus du tout d'économie dans ce débat.
Mais on est en train de parler de budget, de toute manière. Donc la question de l'équilibre de ce budget,
qu'est-ce que vous voulez faire comme économie?
Non, mais Sébastien Lecornu a annoncé, a regardé aussi au niveau
il devrait
de
l'État,
il a lancé une mission.
Il y aura la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.